Salut, salut les bigayous, les bigayoutes, les bigayous. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une émission de l'Art au passage. Cette fois-ci, elle sera une émission inédite puisque ce n'est pas une retransmission de Art Racaille cette fois-ci. C'est un interview fait à Sainte du peintre Jean-Luc Valéjas et de sa compagne Sophie Beaufils. Je suis en compagnie de Jérôme pour la technique, c'est Juliette. Bonsoir, bonjour. Et c'est la dernière de l'année. Voilà, on va faire une petite pause pour l'été. Vous aurez des rediffusions, sans doute. Et voilà, donc on va vous causer aujourd'hui de peinture et d'écriture, autour d'un spectacle qui est né grâce à Jean-Luc et Sophie, sa compagne, qui est conteuse. Voilà. Je suis allée voir donc un spectacle à Sainte le 13 mai dernier et ce spectacle s'appelle Les Lulus. Alors, Jean-Luc et Sophie sont un couple dans la vie et en création, ils sont en complicité. Ils ont tous deux commis cette œuvre. C'est une œuvre originale puisqu'il s'agit d'un spectacle qui allie la peinture et le récit. Jean-Luc écrit autant qu'il peint. Et Sophie, qui est maîtresse d'école, est aussi conteuse. Voilà. Ce spectacle, je l'ai vu à l'Escarmouche, qui est un bar absolument sympathique à Sainte, rue de l'Arc de Triomphe. Et voilà, sur scène, il y avait donc Sophie, qui comptait les mots écrits par Jean-Luc. Et il y avait également un violoncelliste magnifique, Ludovic Proust, qui a accompagné tout le spectacle avec son violoncelle. Et il y avait également une toile posée sur un chevalet pour évoquer le travail en cours du peintre. Voilà. Ce spectacle, ce travail, nous fait entrer la peinture par les oreilles et donc je ne pouvais pas échapper à l'envie de proposer ça pour l'Art au passage et de vous en faire profiter forcément. Je vous souhaite une belle écoute. À tout à l'heure.
Voilà, c'est parti. Bonsoir Radio Bigaille, bonsoir à tout le monde. Ce soir, je suis à Sainte, donc c'est Juliette qui vous présente une rencontre qui a été faite autour de la peinture ce soir. Je suis chez Sophie Beaufils et Jean-Luc Valéjas. Voilà, donc on a une petite bière, c'est bien sympathique et on va causer peinture et on va causer écriture. Voilà. Bonsoir Jean-Luc.
Salut. Salut Juliette.
Donc on est bien dans ce petit jardin là, c'est super charmant. Une vieille maison de 1933. Très très jolie, très romantique. C'est inspirant.
D'ailleurs, c'est vrai qu'il m'arrive assez souvent de peindre ici.
Ouais.
Dans le jardin.
Dans le jardin.
Ouais, carrément. Ouais.
D'accord. Mmh. Tu sors ton petit atelier de jardin.
Tout à fait.
Ouais, mmh. D'accord. Et tu fais de la peinture plutôt alors abstraite ou...
Oui, abstraite, ouais.
Abstraite toujours, en ce moment.
Oui.
Oui. Oui, plutôt abstraite.
Oui.
Bien. Parce que moi, quand je t'ai rencontré sur les quais de Tonnet-Charente, il n'y a pas si longtemps, on était en plein confinement, tu exposais avec d'autres artistes. Des peintures qui étaient plutôt figuratives.
Je me souviens même pas.
Paysages. C'était des paysages.
Oui, ben, il y avait les deux en fait.
De Saint-Onge.
Oui, il y avait les deux.
Il y avait les deux. Et tu me disais que tu étais peintre et que pour gagner des sous, en ce moment, tu enseignais la peinture à Sainte.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas pour gagner des sous, c'est aussi pour partager.
Et c'est aussi pour partager. Oui. C'est bien entendre ça.
Bah oui, parce que gagner des sous, ouais. Quand on est prof de peinture, c'est pas pour gagner des sous, c'est pour le plaisir de partager.
Et c'est aussi pour pouvoir mettre quelque chose dans la gamelle, parce que c'est pas facile de vendre de la peinture. Ouais.
Si on met le rapport pécuniaire au départ, on renverse la situation.
Oui.
Donc il y a des mois difficiles, comme disait Coluche, ça peut être les 30 derniers jours, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir de quoi peindre et de quoi écrire.
Exactement.
Donc le reste, c'est un faux débat pour moi.
D'accord, ok, bon, bah ça s'est posé. Donc, peinture et écriture, alors.
Oui, et là, nous allons te parler surtout de l'écriture, en fait.
Ouais.
Qui tourne autour autour de l'énergie du conte et de la parole.
Ouais, donc ça c'est
C'est par rapport à
Sophie.
Sophie, ouais.
Ouais. Donc toi, Sophie, t'es conteuse.
Oui, moi je suis conteuse. Ça fait une quinzaine d'années que je raconte,
Ouais.
plutôt du conte traditionnel,
Ouais.
en allant vers les grandes épopées, comme le mythe de Gilgamesh, qui est une quête de l'immortalité.
Ouais.
Voilà, qui est un mythe qui date de plus de 5000 ans,
Wow.
qui est très très actuel aujourd'hui. En fait, c'est une course effrénée des hommes à vouloir ne jamais mourir.
C'est un mythe indien?
Non, c'est un mythe mésopotamien.
Ah
Donc
oui.
c'est l'Irak actuel.
D'accord.
Et c'est vraiment la plus vieille histoire écrite dans l'humanité pour laquelle on a retrouvé des traces écrites en écriture cunéiforme
Le mythe de, comment tu
de
dis?
Gilgamesh.
Gilgamesh,
Ouais, le
d'accord.
roi d'Uruk. C'est
D'accord.
une ville qui a véritablement existé.
Ouais.
Et c'est un mythe en fait qui a passé le temps, qui n'est absolument pas poussiéreux et qui raconte ça, la vie d'un roi tyran qui opprime son peuple. Et le
Ouais.
peuple un jour dit au dieu, bon, ça suffit maintenant, faut faire quelque chose parce que là, Gilgamesh, on n'en peut plus. Et voilà, les dieux interviennent.
Wow.
Et Gilgamesh se rend compte qu'en fait, il a une énorme part d'humanité en lui et qu'il va mourir. Donc il court après cette non-mort parce qu'il se rappelle qu'il a un aïeul qui s'appelle Utanapishtim qui lui a obtenu la vie sans mort. Donc on part en fait à travers une épopée avec Gilgamesh. Il vit plusieurs épreuves. Il rencontre son aïeul qui lui dit, ouais, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça, tu sais. Moi maintenant, je vis à l'écart des hommes. Oui, j'ai la vie sans mort, mais je vis à l'écart des hommes. Et en fait, c'est là qu'on découvre que l'histoire du déluge a existé bien avant la Bible, puisqu'elle était dans Gilgamesh.
D'accord.
Voilà. Et c'est comme ça que son aïeul a obtenu la vie sans mort, notamment. Et Gilgamesh n'aura pas la vie sans mort, mais il se rend compte que finalement, être humain, c'est une chance pour lui, et finalement, on devient immortel par ses actes, et non pas par sa tyrannie, en fait, mais par des actes purs et d'amour. Donc voilà, il se rend compte de ça et il transmet ce qu'il a appris.
D'accord.
Voilà. Et
Et
ça, je l'ai raconté en duo pendant
oui.
quelques années, parce qu'en fait, on en a fait une réécriture, qui est un petit texte maintenant, qui est édité chez un éditeur synthé,
Chez quel éditeur?
chez Kwakali.
Kwakali, oui, les
Voilà.
éditions Kwakali,
Les
ouais.
éditions Kwakali. Ouais.
Ouais, d'accord. Donc c'est un conte, un mythe qui parle d'immortalité et qui est immortel.
Oui.
Parce qu'il aurait peut-être même généré peut-être les histoires ultérieures dont tu parlais.
Oui, en fait, c'est le mythe qui va fonder nos mythes
C'est ça.
gréco-romains.
D'accord.
Toute notre
Eh ouais.
tradition de mythe, en fait, est basée là-dessus. Même au niveau d'histoire dans la Bible, finalement,
Oui.
d'épisodes de la Bible,
Ça vient de là.
ça vient de là.
Ah, c'est passionnant. Et cette découverte de ce mythe, ça t'a ouvert le monde du conte ou ça
En
t'a
fait, ça m'a
stimulé?
donné une autre dimension
Oui.
dans le monde du conte. Parce que jusqu'alors, je racontais vraiment des contes traditionnels qu'on connaît tous, qui font partie de notre patrimoine. Mais celui-ci, il est vraiment ancré dans une tradition forte, dans une culture forte, et surtout dans le vrai monde du conteur, dans le vrai, comment dire, dans la vraie position du conteur. Le conteur, il est là comme médiateur, en fait. C'est lui qui va transmettre les traditions, transmettre la culture. Il le fait par sa voix. Et
D'accord.
autrefois, quand on n'avait pas l'écrit, le conteur, il avait cette place-là. Il éduquait et il
Oui.
passait les traditions.
Oui, la
Donc,
culture passait par là,
ouais, par la voix.
par la voix.
En fait, juste par ça. On n'avait pas besoin d'une mise en scène, on n'avait pas besoin, comme au théâtre, d'accessoires, on a besoin juste d'une voix.
Et d'une place de village ou d'une agora quelconque pour pouvoir se retrouver, tous âges confondus.
Ou à la veillée au coin du feu.
Ou à la veillée au coin du feu.
En hiver.
D'accord.
Quand il y avait les travaux à l'intérieur de la maison, en fait.
C'est complètement fondateur de tout. C'est l'origine, quoi.
C'est ça.
De la culture dans une société humaine, quoi.
Et la transmission simple, le partage.
Le partage simple. Bon, enchantée, Sophie. C'est magnifique. T'es passionnée et passionnante. Et donc, tu es conteuse et aussi compagne de Jean-Luc.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, comme tu es quelqu'un qui partage, tu partages non seulement sa vie, mais aussi sa passion. Enfin, vous avez ensemble co-construit un petit moment de, on va dire, de partage, de spectacle, mm-hmm. Autour du conte. Vous avez réussi à mettre ensemble le conte et la peinture.
En fait, c'est parti d'un texte que j'ai écrit. Qui est maintenant, en fait, qui est devenu un roman, qui va aussi être édité. Mm-hmm. Et évidemment, un roman, c'est construit avec des mots, mais comme je suis surtout peintre, les mots et les couleurs se sont mélangés, et ça a donné vie à un spectacle. Et Sophie représente le côté oral, donc le côté parlé du spectacle.
Ouais.
Alors, donc, moi, j'ai écrit. Et Sophie vous le partage avec sa parole, avec sa voix.
Avec sa voix.
Donc on est tous les deux fondateurs de quelque chose qui avant tout est un acte d'amour entre nous. C'est un partage d'abord entre nous.
Ça sent.
Oui.
Oui.
Enfin, je sais pas, je dis oui, mais...
Si, moi je trouve que ça sent. Alors je précise quand même, parce que là on est parti sur les chapeaux de roue. On sort du spectacle, hein.
Oui.
Il est quelle heure? Il est 1h30 du matin. Et donc là on débrief, c'est très chouette, mais on ne s'est pas plus présenté que ça. En gros, on est à Saintes. On sort d'une petite échoppe qui s'appelle...
L'Escarmouche Musicale.
L'Escarmouche Musicale, rue de l'Arc de Triomphe. À Sainte,
tenue par Franck,
qui est absolument accueillant. L'endroit mérite vraiment le détour. Hein. J'invite tout le monde à aller faire un saut parce que c'est vraiment. Alors là, si c'est pas un lieu de partage, ça, il y a des guitares disponibles pour tout le monde. Il y a des bouquins partout, des peluches partout pour lutter contre les conflits éventuels. Apparemment, il m'a dit que c'était son système de sécurité. Il y a des peluches partout, des gros lions, des grandes girafes et des petits nounours. Il est super sympa. Le public qui était là, les yeux comme des soucoupes, les oreilles grandes ouvertes, enfin c'est vraiment un grand moment. Et donc Sophie qui nous a dit les textes de Jean-Luc. Voilà.
C'est ça.
C'est ça. Donc on avait un tableau de Jean-Luc en début de présentation qui représentait...
T'as vu, c'est pas évident hein, de parler de...
Ah, qui représentait pas, c'était un tableau abstrait.
Tout à fait. Donc. Et je sais pas si tu te souviens de la phrase au tout début du spectacle qui annonçait la suite. La phrase disait « Il ne faut... Aide-moi !» Et tu vois, c'est moi qui l'ai écrit, je me rappelle jamais.
J'ai un trou.
Ouais,
Il ne faut jamais dire...
En fait, les tableaux, dès qu'ils sont un peu
abstraits, demandent à notre œil de voir des repères rassurants, alors qu'il faut faire l'inverse.
Ah, voilà, c'est ça.
Il faut faire l'inverse, il faut juste
oui, voilà,
laisser
quand on est,
venir les choses.
Quand on est devant une certaine peinture plutôt abstraite, les gens ont tendance à chercher des repères, à dire
«
Ah là, je vois ça, là, je vois ça, là, je vois un chien. » Ou...
Toujours. C'est
naturel. Et en fait, il ne faudrait pas faire ça, il faudrait plutôt chercher à ressentir une émotion neuve. Il faudrait essayer de sortir de cette espèce de passé qu'on a tous en nous, parce que finalement, quand on cherche des repères, c'est qu'on cherche quelque chose à quoi s'accrocher.
Oui, et quelque chose qui est déjà peut-être pré...
Prémâché.
Prémâché, préjugé presque. Enfin,
c'est absolument ça.
Et
qu'en fait, ce serait plutôt agréable d'aller chercher, d'essayer de retrouver des émotions neuves. Moi, je commence à y arriver, mais ça demande un sacré détachement, en fait. Parce que moi, le premier... Je peux inévitablement pas m'empêcher de dire « là je vois ci, là je vois ça ».
Je longeais la voie ferrée, comme tous les soirs lorsque je rentrais de l'école. Le vent faisait trembler la végétation, pas plus haute que le kermès et le genévrier. Seul, dépassaient religieusement les clochers alignés des cyprès. Les robes blanches et noires des vaches, qui regardaient passer les trains, se balançaient. J'apercevais l'accent circonflexe du toit de la petite gare, posé sur le soir, en contrebas. Les raffineries au loin rejetaient leurs fumées polluantes, tranquilles et familières.
Mais oui, parce qu'on a besoin de notre cerveau, cherche toujours à se rassurer, alors qu'il faudrait lâcher prise et puis laisser notre inconscient venir nous envahir et
ou
puis
émotions,
se présenter à nous, oui. Peut-être. Mmh. C'est ça, et puis nous faire des surprises, quoi.
Et le spectacle est parti de ça, en fait. Au départ, ça n'a pas du tout été construit chronologiquement. Ce spectacle a été écrit comme une succession de tableaux. Mmh. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a un Lulu en bleu, un Lulu en vert.
Oui, bien sûr.
Donc ce sont à chaque fois des tâches monochromes, on va dire. Mm-hmm. Des textes monochromes, on pourrait dire. Et donc, la première partie du spectacle, on pourrait dire que c'est la partie galerie, la partie présentation des tableaux, mm-hmm. la partie...
Expo. On est en exposition et on déambule de tableau en tableau, en
de
fait,
lulu d'impression. En lulu.
Voilà.
Oui. Alors, j'aimerais bien que tu me redises, Jean-Luc, ce qu'est un lulu. Parce que nos auditeurs ne connaissent pas le
non.
Lulu.
Et pour finir, après je vais te répondre, et la seconde partie du spectacle, on bascule après dans l'intimité du peintre. En fait, au départ, on est dans l'aboutissement des œuvres
oui,
qui sont exposées.
Fin,
voilà, on commence
oui.
par la fin.
Ouais, ouais.
Les tableaux sont exposés par les mots de Sophie. Mmh. Et ensuite, on rebascule dans la création. Alors qu'au départ, c'est la présentation des œuvres. C'est exactement comme dans un musée ou dans une galerie. Et ensuite, on passe du côté créatif. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de musique. Donc on est moins dans la représentation. On est vraiment dans la... On bascule dans l'intimité du peintre.
Voilà, alors question musique, on n'a pas parlé de...
Ludovic Proust,
qui est un musicien qui est venu avec son instrument sur le dos. C'est pas rien, hein, c'est pas un pipeau, c'est une contrebasse.
Un violoncelle.
Une belle bête, et c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Hein. C'est un travail de son, quoi, un travail complètement sonore, abstrait, hein, comme ton travail de peinture.
Oui, il a cherché
ça
à...
marche bien.
Il a vraiment... Alors là, pour le coup, il a... Si je te demande quelles ont été les musiques qu'il a jouées, est-ce que tu pourrais leur mettre un nom?
Ah ben non.
Oui, voilà. Alors c'est exactement ça. Ludovic est allé chercher dans la musique des musiques qu'on ne connaît pas, des musiques très 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 contemporaines. Ce qui fait que rare...
Qui existe quand même.
Oui, ça...
Oui.
Oui, mais il est quasiment impossible de savoir ce qu'il a joué parce qu'on ne connaît pas. Et du coup, ça nous évite à tous de partir dans une direction. Si on met du Mozart, on va inévitablement avoir des souvenirs. Parce que tu connais Mozart. Mmh. Si on te met du baroque, inévitablement, ça va te ramener à quelque chose que tu as déjà vécu, ressenti. Mmh. Alors que là, c'est une musique qui n'est pas du tout, du tout... ancrée dans notre passé, finalement. Elle nous propose une autre porte, une autre ouverture.
Ouais. Ça fait vraiment écho à ton travail de peintre. Voilà, donc on a la musique, la peinture et le texte. Il n'y a que le texte qui est concret dans cette affaire.
C'est ça,
hein,
oui.
C'est ça,
oui. Hein. Oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'on finit sur une toile blanche, parce qu'en fait, c'est à chacun de s'approprier la peinture à partir d'une toile blanche. Mm-mm. Alors que la première partie, il y a quand même un tableau qui déjà s'impose par son côté rouge, ses couleurs chaudes.
Oui.
Il est quand même assez présent au départ. Mm. Et ensuite, on bascule vraiment dans l'univers, dans l'atelier du peintre. Mm. Et on a une toile sur un chevalet qui propose à tout le monde, finalement, sur cette toile, vous y mettez ce que vous voulez.
Oui, et puis c'est vrai que le récit, enfin, c'est en fait ce sont tes textes que dit par Sophie, ça nous apporte tellement d'images que cette toile blanche, en fait, elle est là comme support à l'imaginaire, mais il n'y avait vraiment pas besoin d'autre chose pour nous emmener. Alors moi, je voudrais te poser une question, Jean-Luc, qui va peut-être te fâcher, mais, parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas trop, mais j'aimerais quand même que tu essaies de me dire un petit peu ta peinture abstraite. Est-ce que tu pourrais mettre quelques mots au-delà de tout ce qu'on a entendu, qui sont des réflexions
Alors en fait, pour
intime.
parler, je vais me resservir, et ça ne sera pas une pirouette, hein, c'est pas du tout pour éclipser ta question, mais comme il est dit dans le spectacle, je pense que de parler peinture, c'est s'en éloigner. Quand on commence à
Ouais.
mettre des mots sur la peinture, c'est pour dire autre chose que la peinture. Parce que
Oui.
la peinture, c'est quelque chose de visuel.
Puis c'est un langage, déjà.
Mais surtout, parler de la peinture, c'est déjà ne plus être dans la peinture. Donc, pour moi, la peinture, ça a toujours été une thérapie au départ. Pendant longtemps, j'ai peint pour calmer des angoisses, pour calmer tout un côté sombre que je pouvais avoir. Et avec le temps, c'est devenu ma peinture. Donc, j'ai mis au point une technique que, enfin, moi-même, je ne sais même pas d'où elle sort finalement. Elle est faite d'accidents, d'instants, mais surtout de nuits blanches, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en fait.
À chaque fois que je t'ai eu au téléphone ces derniers temps, tu étais en train de rincer un pinceau pour pouvoir me répondre quand c'était pas Sophie qui me répondait parce que tu étais tout le temps en train de bosser en fait. T'arrêtes
Je
jamais.
confirme.
Ouais.
Ouais, c'est un équilibre, j'ai besoin de ça. Et puis, c'est pour ça que tout à l'heure, ta question par rapport au fait de gagner de l'argent, si j'étais payé à l'heure, je serais très riche. Donc, tu vois, enfin, je suis vraiment pas ça pour gagner de l'argent. Je fais ça parce que pour moi, c'est une béquille.
Je parlais pas de fortune, hein.
Non, non, je
Je parlais
sais.
de croûté, hein.
Ouais.
Eh ben, parce qu'il faut quand même nourrir la bête, sinon on peut pas produire.
Non, c'est clair, c'est clair.
Si on a trop de soucis, on a beau avoir des idées sombres qui peuvent générer des créations, il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait un minimum pour pouvoir au moins acheter de la peinture et puis manger.
Bah, tu vois, dans mon cas, le minimum, il m'est arrivé d'avoir un frigo vide, mais j'avais toujours de quoi peindre.
Voilà.
À chaque fois que je vendais un tableau, c'était surtout pour acheter de la peinture.
D'accord.
Je n'ai jamais posé la question, parce qu'on arrive toujours à manger un plat de pâtes finalement. Donc c'est pas vraiment un problème, je pense.
D'accord. Donc c'est un moteur indispensable à ton équilibre de peindre.
De peindre et d'écrire.
Et d'écrire, parce que les deux marchent ensemble.
Oui, oui, oui.
Hein, et tu as écrit déjà plusieurs... Enfin, il y a deux recueils que je connais.
Un roman qui arrive.
Et un roman qui arrive.
Il y a eu beaucoup de chansons à une époque. Je ne peux pas vraiment parler de... Je ne sais pas d'où... Quel est dit, comment différencier les mots des couleurs. Je suis vraiment quelqu'un de créatif, en fait. Je ne me pose pas la question à l'envers. Je ne me dis pas, je vais faire un tableau pour le vendre et pour croûter. Ou je vais écrire un texte pour le vendre et pour croûter. Je me lève le matin ou je me lève la nuit. Parce qu'il faut que je crée.
Ouais.
Et la question après... il faut peut-être manger demain, on va toujours trouver de quoi manger. Mais je ne me pose pas le problème dans l'autre sens. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de créer.
Ouais. Et moi, ta peinture abstraite, je ne connaissais pas, au départ, je connaissais tes paysages, que je trouve absolument remarquables. On est dans une peinture relativement classique de paysages, de ce que tu vois en sortant de chez toi, en gros. Hein.
Là encore, c'est quelque chose... Je peins mes tableaux figuratifs en une seule séance.
Sur le motif,
ouais, c'est ce qu'on appelle des pochades, en fait.
Des pochades sur le... Tu es un peintre de plein air, principalement.
En fait, je suis quand je fais mes abstraits, c'est pareil. Il faut que ça va très vite, finalement. Je peux pas me... Je me répercute pas sur le lendemain, le surlendemain. Je peux pas.
Oui.
Les choses sont faites dans l'instant.
Ok.
Et la pochade, c'est ça, ce sont des tableaux figuratifs que tu fais sur site très rapidement.
Voilà. C'est ça. Elles sont très vivantes et les lumières, les couleurs sont extraordinaires. Et...
C'est pour ça que je ne recherche pas du tout à représenter les choses avec classicisme, je recherche plutôt l'émotion.
Oui.
Pour moi, ce qui prime, c'est d'arrêter l'instant sur ma toile et de me dire s'il y a des erreurs dans le dessin, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est l'émotion colorée.
Oui.
Qui vont en ressortir.
Oui.
Et c'est là où je rebascule un petit peu dans l'abstrait, finalement.
Oui. Et alors, quand tu pars dans l'abstrait, tu pars dans l'abstrait. Hein. Pour le coup, on est dans la matière, on est dans la... C'est de la cuisine, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment vivant. C'est aussi vivant que tes tableaux figuratifs, ta peinture abstraite.
Certainement. Et là, je ne peux pas en parler, parce que je ne sais pas du tout parler...
Tu peux pas en parler.
Ouais. Non.
Mais n'en parle pas.
Non, mais je sais pas en parler plutôt.
Ouais.
Je sais pas parler de ça.
Tu dis d'autres choses, tu racontes ton enfance, mais en tout cas, moi, en tant que... la peinture abstraite, c'est pas quelque chose que je connais plus que ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une émotion dans ce que je vois. Il y a une vitalité, c'est une peinture qui est faite d'énormément de matière. Hein. On sent que c'est... C'est vécu, quoi.
C'est pour ça que je te dis, ça part d'un besoin, ça part d'une énergie. Au départ, c'est pas calculé. Après, avec l'âge et avec le temps, j'ai fini par acquérir ma propre technique, parce que j'ai réussi à trouver mes recettes. Mais malgré le fait d'avoir des recettes, j'évite de tomber dans la mécanique.
Ouais.
Autrement, je finirais par m'ennuyer.
Ouais.
Donc le but, c'est vraiment à chaque fois d'essayer de retrouver quelque chose de neuf.
De neuf et tout le temps. On retrouve tout, enfin c'est quand même un travail qui est extrêmement cohérent, c'est-à-dire tu pars pas dans plein de directions, t'es sur il y a quand même une méthode, une façon de faire.
Parce que si tu regardes bien, chaque tableau est monochrome, il n'y a qu'une couleur par tableau, mais la couleur je vais la travailler, je vais la décliner, je vais la dégrader, je vais vraiment l'exploiter à fond.
Alors je sais pas ce que t'appelles une couleur, mais moi quand je vois du rouge, du jaune, du noir, du blanc, du orange et du...
Tu regarderas bien les tableaux, ils sont monochromes. Par contre, la dominante, c'est chaque fois une seule couleur.
Il y a une dominante.
Tout le temps.
Mais il n'y a pas que cette couleur. Ou alors, on n'a pas les mêmes yeux. Mais qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Est-ce que tu dirais que c'est monochrome, toi?
Eh bien, la majorité, ouais, ils le sont, monochrome. Il va y avoir juste une touche, un point de couleur différente qui fait balancer le tout. Mais la majorité des tableaux, ils le sont, oui. Ils travaillent vraiment sur un seul camaïeu de couleurs. Hein. Moi, je suis
un camaïeu de couleurs, oui, c'est pas une seule teinte.
Je ne suis pas spécialiste pour ça, donc je ne saurais peut-être pas utiliser les termes techniques pour la peinture, mais c'est vrai qu'en général, ils travaillent sur une seule et même palette de couleurs, quoi.
Oui, c'est ma façon de peindre, oui.
Alors ça, c'est du ressenti. Alors là, pour le coup,
Non,
moi,
c'est de la
je vois
technique.
une vibration, je vois des paysages extrêmement riches de plein de
Ah
lumière.
non, mais là,
Donc,
tu parles du figuratif, là.
non, non, je parle de... Des peintures abstraites sont aussi des paysages pour moi, parce que
D'accord.
je bascule, j'interprète, hein, mais pour moi, je les ai un peu en tête. Quand j'ai du blanc, du bleu, du vert, du noir et du jaune sur un tableau, je ne peux pas dire que c'est monochrome.
En fait, c'est monochrome parce qu'au départ, je commence par peindre à plat. Je fais couler mes couleurs que j'ai rendues liquides. Donc, si je mélange à plat différentes couleurs liquides, il y a toute une partie que je ne maîtrise pas quand les couleurs coulent. Donc, si je mélange tout un tas de couleurs différentes, inévitablement, je vais tomber dans des couleurs de boue au final.
Oui.
Les couleurs vont se mélanger et vont avoir des rapports malheureux que je ne maîtriserai pas. Par contre, si je mélange 7 ou 8 bleus différents avec du blanc, je resterai dans du bleu. Donc là, je pourrais pas me planter. Si quand je fais couler mes couleurs, je mélange un rouge, un bleu, un jaune et un noir, sur 4 mètres de papier, il me restera 3 cm. Donc ma peinture est monochrome, vraiment au départ.
D'accord.
Après, dans la construction des tableaux, il peut arriver que je me serve d'autres couleurs, mais au départ, c'est vraiment une énergie colorée. Il n'y a
D'accord.
qu'une teinte au départ.
D'accord.
C'est vraiment monochrome. Puisque je travaille à plat, il y a tout un tas d'accidents que je ne maîtrise pas vraiment. Donc je demande à mes couleurs d'être sûres d'elles. Je ne peux pas mélanger n'importe quoi. Donc je pars vraiment sur une dominante dès le départ. Après, la construction du tableau peut me permettre de rajouter d'autres teintes, mais ce n'est pas le but finalement. Le but, c'est d'exploiter une couleur à fond.
D'accord.
Tu verras, je te rentrerai tout à l'heure.
Ouais.
Chaque tableau a vraiment sa dominante.
Bon, on ira voir ça. Et
Oui.
si les auditeurs sont pas convaincus, parce que c'est vrai que ça peut paraître très mystérieux, ça l'est aussi pour moi, et ben on peut les inviter à venir voir les peintures. Ils se font eux-mêmes leur idée. Donc, alors, quand est-ce qu'on peut venir voir les peintures et où on peut venir les voir? Parce que là, c'est une chance. On est, pour une fois dans cette émission, on va pouvoir, on parle d'un travail qui est en cours, qui se passe dans la région, donc à Saintes, et qu'on peut voir. Donc ça, c'est quand même rare, hein. J'ai pas toujours de l'actualité à proposer. Là, il y en a une, puisque c'est régulièrement, on peut venir à l'atelier, à la
Oui,
galerie.
la galerie est ouverte tous les dimanches matin.
Ouais.
Nous sommes au 48 rue Émile Zola à Saintes.
Au 48 rue Émile Zola à
Oui,
Saintes.
Émile Zola, comme le peintre d'ailleurs.
Comme le peintre. Qui
Et
s'ignore.
ou alors c'est sur rendez-vous.
Chez Jean-Luc Valéjas et Sophie Beaufils. Voilà. Et donc le dimanche. Est-ce qu'il y a un marché dans les environs?
Oui, il y a le
Il y a...
marché Saint-Palais, en fait, qui est un des marchés les plus populaires à
D'accord.
Saintes, parce que
D'accord.
Saintes est une ville où il y a un marché tous les jours.
Ouais.
Mais le marché du dimanche est un marché sympathique, coloré.
Ouais.
Et donc, nous ne
C'est
sommes
juste
pas
à
très
côté,
loin.
là.
C'est à 50 mètres.
C'est à 50 mètres du marché. Voilà. Donc, si vous venez au marché Saint-Palais, c'est
Oui.
ça, à Saintes, venez faire un tour au 14...
48.
48, bien sûr, 48 rue
Oui,
Émile
Émile Zola.
Zola. Et si on peut venir de quelle heure à quelle heure?
Alors, nous sommes ouverts le dimanche matin de 10 h à 13 h.
Voilà.
Mais en fait, les gens peuvent aussi nous appeler si ils veulent passer à un autre horaire
Ouais.
et on prend rendez-vous.
D'accord, on peut donner le numéro?
Oui,
Alors,
au
vas-y.
06 03 03 47 35.
06-03-03-47-35. Voilà. Bon, ben ça, c'est une bonne chose. Et puis, on peut peut-être informer d'une prochaine édition du spectacle. Est-ce que...
Alors oui, les Lulus, d'ailleurs Jean-Luc, il n'a pas répondu à
Oui, c'est
l'explication
vrai.
des
On va y
Lulus.
répondre après.
Mais les Lulus, ils vont
C'est le nom du
aller...
spectacle, hein. Les Lulus, c'est le nom
Oui,
du spectacle.
ils vont aller jouer à Rions, dans un petit village du Bordelais, dans un petit café associatif, le 18 juin
Ouais.
prochain. Voilà. Ça, c'est vraiment la date.
Donc c'est l'appel du 18 juin à Rions,
Voilà.
d'accord.
Et pour les
Et ce
autres
petit café,
dates,
il a un nom, on ne sait pas.
eh ben c'est le café associatif de Rions.
Le café associatif de Rions. Très bien, le 18 juin,
Oui.
au soir.
Le soir.
Le soir.
Oui.
D'accord. Bon, bah ça c'est pas mal, hein. Et maintenant, Jean-Luc, les Lulus, qu'est-ce que c'est?
Alors, en fait, lorsque j'étais enfant, parce que je n'habite pas à Saintes par hasard, ici c'est une ville de cheminots.
Oui.
Bon, mon arrière-grand-père, mon grand-père, etc., ils étaient tous dans les chemins de fer. Et puis, quand j'étais gamin, quand on me demandait ce que je voulais à Noël, je voulais des lulus. Et ça a duré longtemps, jusqu'à ce que je puisse expliquer ce que c'était, mais en fait, je n'arrivais pas à expliquer ce que c'était que des lulus. Et ça finit par gonfler toute ma famille, parce qu'en fait, tout le monde savait que Jean-Luc voulait des lulus à Noël. Mais personne ne savait ce que c'était. Et moi, j'insistais. Et puis un jour, j'étais dans la voiture avec mon grand-père. J'étais debout derrière, comme tous les gamins, là, avec les deux bras sur les deux fauteuils avant. Et il y a un passage à niveau qui se met à clignoter, avec les barrières qui se baissent. Et ça faisait tululululu, et ça faisait ce bruit de sonnerie avec la lumière. Et je dis à mon grand-père, papy, des lulus! Et mon grand-père qui fait, oh putain, et je ne sais pas s'il a dit putain, mon grand-père disait souvent pas putain, mais il a dit, ça y est, je sais ce que c'est. Et voilà, il est rentré à la maison en disant, voilà, ça y est, je sais ce que c'est que les lulus. Et il y a quelque temps en arrière, en écrivant, le hasard a voulu qu'en fait, je reconnecte ça sur un texte. Mais je me doutais vraiment pas que ça allait ressortir. C'est un souvenir que j'avais vraiment mis de côté, j'avais oublié, j'y pensais plus du tout. Et puis, c'est en écrivant ce roman, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi, gamin, qui se remettait à vivre. Et j'ai extrait les parties du roman qui parlaient des Lulus. Et ça donnait le spectacle. Que j'ai ensuite retravaillé en fonction du spectacle. Mais au départ, c'est un texte qui est intégré dans un roman. Mais je ne
D'accord.
pensais pas du tout en extraire un spectacle. Si je n'avais pas rencontré Sophie, ce spectacle n'existerait pas, puisque
Voilà.
quel aurait été mon intérêt d'écrire un spectacle? C'est Sophie, en tant que femme de scène, qui m'a permis de mettre ces mots en scène, sinon j'aurais jamais été chercher ça.
Eh ben, je pense que ça fait une très belle conclusion à notre affaire. On va juste rappeler le nom de la compagnie.
La compagnie rouge, etc.
Rouge, etc., qui est également le nom de la petite galerie
Oui.
de la rue Émile Zola, qui s'appelle la galerie
Rouge, etc.
et voilà, etc. Bon, ben, sur
Merci
ce,
Juliette.
etc.,
Merci
merci à
Juliette.
vous, un grand merci, et puis ben, une belle vie aux Lulu, on peut leur souhaiter ça,
Oui.
Ouais,
hein?
merci.
Et puis, ben, on continue dans le partage, et voilà.
Merci Juliette.
Allez,
Salut.
salut, salut,
Salut.
ciao.
Ciao.
Je m'appelle Lulu, comme un possible voyage. Et j'étais le fils du garde-barrière.
Ainsi s'achève cette émission consacrée au travail de Jean-Luc Valéjas et de Sophie Beaufils autour du spectacle Les Lulus qui s'est joué au café L'Escarmouche à Saintes le 13 mai 2022. C'était la dernière émission de cette première période de l'art au passage, période qui débuta en mars 2022. Cet été, vous pourrez réécouter les émissions diffusées cette année puisque nous nous mettons en mode vacances. Je vous espère en pleine forme pour nos retrouvailles à la rentrée. Que vos yeux, vos oreilles et vos cœurs s'emplissent de belles émotions tout l'été. Je vous dis à bientôt et on se quitte avec un morceau des Doors, groupe chéri de Jean-Luc le peintre. Gros bibi, à tout bientôt!
Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, 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 let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze.
I'm a lizard king. I can.